Donc nous allons passer à la seconde intervention de cette première partie de l'après-midi. Ça devient très compliqué. Et donc nous allons maintenant écouter Valentin Touzeau qui va nous parler d'engagement théorique et de pratique et de discours.
Merci beaucoup. Merci pour la présentation qui était vraiment très bonne et pour toutes les autres. J'ai pas pu être là hier malheureusement. J'aurais beaucoup aimé en tout cas. Donc, moi, je m'intéresse au jeu de rôle comme un objet de science. C'est-à-dire, pour moi, le jeu de rôle, c'est un objet qui est complexe, qui a de multiples dimensions. Une dimension psychologique, une dimension sociologique, on l'a vu, une dimension juridique, on vient de le voir, une dimension linguistique, c'est ce qui m'intéresse un petit peu plus. Mais en tout cas, si on veut avoir une perspective assez unifiée des savoirs au sujet du jeu de rôle, on a besoin d'entrer dans ce que j'appelle l'interdisciplinarité. C'est exigé par cette unité des savoirs, mais le travail interdisciplinaire, c'est quelque chose aussi de très exigeant, particulièrement exigeant, puisqu'il faut articuler plusieurs concepts, plusieurs domaines, et surtout un lexique qui vient de plusieurs disciplines. Et on a un cas particulier en jeu de rôle, c'est qu'on a un travail sur les connaissances rôlistes qui est très peu institué. C'est-à-dire qu'on est ici dans une université. Il y a une forme d'institutionnalisation des savoirs, c'est-à-dire que voilà, je parle ici avec un certain lexique, vous m'écoutez, j'ai un certain vocabulaire qui peut se transférer, on peut s'harmoniser, mais en tout cas cette institutionnalisation est assez faible dans le champ de connaissances rôlistes en général. Donc ça c'est ce qu'a soulevé Jérôme Larré au cours d'une conférence à Orchidée en 2014, si je me souviens bien, dans lequel il dit, bon bah en fait il nous manque quelque chose, c'est un cadre de référence commun, une grammaire, pour parler du jeu de rôle, se faire entendre, se faire comprendre. Et en fait, sous ce cadre de grammaire, il y a structurellement, de manière sous-jacente, un cadre de concept commun, partagé. Et c'est là où j'essaye, moi, d'intervenir, c'est-à-dire de regarder le jeu de rôle comme objet d'étude en termes de construction des savoirs communs, en termes de comment est-ce qu'on discute autour du jeu de rôle. Donc, moi, mon champ d'étude, c'est pas les parties de jeu de rôle, c'est pas non plus les jeux, les ouvrages, comme on l'a vu là pour le cas de la règle. C'est nous tous ici, c'est-à-dire la façon dont on parle du jeu de rôle, la façon dont on réfléchit le jeu de rôle. C'est ce qu'on appelle une perspective épistémologique, voilà, un bien gros mot, comme le disait la dernière fois Olivier. Mais ce qu'on remarque tout de suite, c'est qu'on a souvent des fortes résistances à cette institutionnalisation. On va dire, vous utilisez du jargon, et inversement, on a aussi des initiatives comme ici, qui nous permettent de proposer un cadre institutionnel. Donc je ne suis pas en train d'essayer de vous dire que je veux normer notre façon de parler. Ce que je regarde, c'est la façon dont les gens parlent. Et c'est ça que je vais essayer de vous présenter ici. Donc moi, ma proposition, c'est d'étudier la diversité des discours sur le jeu de rôle. Et voir ce que ces discours engagent théoriquement, puisque dans ma perspective de linguiste, si vous voulez, la façon dont on parle, en fait, est le reflet de la façon dont on pense. Et la façon dont on pense est directement le reflet de nos pratiques au niveau du réel, quoi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai étudié le lexique d'une série de gens qui pratiquent le jeu de rôle. Leur catégorie lexicale, si vous voulez, leur manière de dire le jeu de rôle, à travers deux communautés différentes. Donc la première communauté, c'est une communauté de créateurs de jeux de rôle et de gens qui réfléchissent au jeu de rôle. La deuxième, c'est une association de joueurs de jeux de société, de jeux de plateau et de jeux de rôle notamment. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai réalisé une vingtaine d'entretiens, un peu plus d'une vingtaine d'entretiens, répartis à peu près équitablement entre les deux communautés. Et au cours de ces entretiens, ce ne sont pas des discussions dans lesquelles je vais simplement... D'ailleurs, il y en a pas mal d'entre vous qui ont été mes victimes. Au cours des entretiens, je ne vais pas avoir une discussion informelle. C'est des entretiens qui sont quand même assez normalisés, selon des méthodologies qui sont tirées de l'ethnographie. Donc c'est là où l'interdisciplinarité commence à entrer en jeu, c'est que j'articule la linguistique pour le côté lexical et les techniques d'ethnographie pour proposer des entretiens rigoureux. Et ça se passe en deux étapes que j'itère successivement avec un locuteur. Donc j'essaie dans un premier temps de relever le lexique de catégorisation des différents jeux de rôle et de leurs éléments, c'est-à-dire le vocabulaire qu'on utilise pour parler du jeu de rôle. Et là, l'idée, c'est de ne moi n'introduire aucun terme qui m'est personnel, pour essayer vraiment de relever ce qui concerne le lexique des locuteurs propres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la façon dont eux parlent du jeu de rôle. Et après, pour conduire l'entretien, je ne fais que réutiliser des termes qui m'ont été donnés par les locuteurs pour essayer d'explorer, en fait, l'ensemble des façons de dire le jeu de rôle pour chaque locuteur. Donc ça, c'est la première étape, relever des mots. La deuxième étape, c'est d'essayer de comprendre les critères de catégorisation associés au lexique que j'ai pu relever. Donc on va me donner des types de jeux de rôle différents, des types de règles, des types de joueurs. Et ensuite, je vais essayer de me demander, et de voir avec le locuteur, donc, comment est-ce qu'on différencie chacun de ces types-là? Quels sont les critères de pertinence qui permettent de différencier tel et tel objet du lexique? Donc, c'est un petit peu abstrait. Je vais vous proposer un exemple d'un membre de l'association dans laquelle je fais partie. Oui, quelque chose qui est très ethnographique, mais je fais partie des deux communautés dans lesquelles j'ai fait mes entretiens. C'est quelque chose qui, pour un sociologue, voudrait plutôt se retirer et avoir une certaine objectivité. Moi, pas du tout. Je construis le sens avec le locuteur. Donc, ce membre, on va l'appeler Gary, pour l'anonymat. Pour lui, je commence par lui demander très bien quels sont les différents types de jeux de rôle pour toi. Il me dit, c'est très simple. Il y a les jeux de simulation de narration, d'un côté, et les jeux de simulation de monde, de l'autre côté. Ok, là, j'ai mon lexique. Bon, je vous l'ai fait en rapide. Hein. Normalement, les entretiens, ça dure une bonne trentaine de minutes, au moins. Une fois que j'ai ce lexique-là, ok, simulation de narration, simulation de monde, je cherche à savoir quel est le critère de pertinence qui me permet de différencier pour le locuteur ces deux types de jeux de rôle. On a, pour le locuteur, les jeux de simulation de narration qui ont des mécaniques qui permettent d'éliminer les paroles non tropistes, tropistes dans le sens de trope narratif, si vous voulez. Et d'un autre côté, ce sont des mécaniques qui permettent de restreindre l'autorité afin de voir apparaître un ensemble cohérent. Donc pour mon locuteur, ce qui différencie ces mots-là, simulation de narration, simulation de monde, c'est à quoi servent les mécaniques dans ce qu'elles restreignent, ce qu'elles enlèvent au cours de la partie. Elles enlèvent des types de paroles données. Ok, c'est la vision du monde pour le locuteur avec lequel je travaille. Donc pour lui, c'est un continuum avec à l'extrême les jeux de narration, de simulation de narration. Il me cite un jeu qui s'appelle Hot Guys Making Out comme le représentant de ce type de jeu. À l'autre extrémité, les jeux de rôle de type simulation de monde, il me cite Indomine Satanis. Au milieu, Torchbearer. Alors je vous cite des noms, vous connaissez pas. Plutôt du côté des jeux de simulation de monde, on aurait L'Appel de Cthulhu, Shadowrun. Plutôt du côté des jeux de rôle de simulation de narration, on aurait plutôt Apocalypse World. Et donc ça, c'est sa façon de se représenter les jeux de rôle. Et ensuite, je continue, donc je lui ai posé la question. Il a parlé de règles. Je lui dis très bien. Quels sont pour toi les différents types de règles? Il me dit, c'est très simple, il y a deux types de règles, les règles intradiégétiques et les règles extradiégétiques. Et puis dans les règles extradiégétiques, il y a deux sous-types de règles, les règles mécaniques, les règles sociales. Ok, on continue, là j'ai mes mots, a priori on pourrait se dire, très bien, je sais ce que ça veut dire intradiégétique. Alors lui, il me dit, ce qui différencie intradiégétique et extradiégétique, c'est le type d'entrée accepté par la règle en fonction de ce qui est socialement reconnu à une table de jeu. C'est-à-dire, par exemple, il me dit, dans Apocalypse World, il y a une règle spéciale qui s'appelle les moves. Et les moves sont déclenchés par quelque chose, une entrée de la fiction. C'est la fiction qui va nous dire à quel moment on utilise cette règle. Une règle extradiégétique mécanique, c'est par exemple, quand un personnage joueur n'a plus de PV, il est mort. C'est ce qu'il me dit comme exemple de règle extradiégétique mécanique. Et enfin, une règle extradiégétique sociale, ce serait, il me cite la carte X. Tout joueur, à un moment donné, a un droit de veto pour annuler un élément de la partie. Donc là, il n'y a pas de règles mécaniques qui sont l'entrée de cette règle-là. Il n'y a pas d'éléments de fiction, c'est simplement social pour mon locuteur. Donc là, je vous ai donné en résumé ce que peut donner un entretien particulier. Et ça peut continuer pour l'ensemble du lexique que je vais comme ça creuser. Et je vais faire des tests, en fait, en demandant des exemples et en validant si ces exemples-là respectent bien les critères de pertinence que m'a donné le locuteur. Est-ce que effectivement ça colle bien? Est-ce que c'est logique? Est-ce qu'à un moment donné ça coince quoi? Donc je réalise cet entretien et au bout d'une vingtaine d'entretiens que j'ai pu réaliser avec les deux locuteurs, j'ai analysé ces résultats de lexique, de critères de pertinence, de façon de penser le jeu de rôle en fait. Donc j'ai plusieurs résultats. Ma présentation est relativement courte normalement. Premier résultat qui a été extrêmement frappant. C'est que la totalité des systèmes de catégorisation auxquels j'ai été confronté sont tous extrêmement cohérents. C'est-à-dire que vraiment, avec chaque locuteur, à la fin de l'entretien, je me dis, ok, j'ai une cartographie de l'espace du jeu de rôle, d'une façon de penser le jeu de rôle qui est complète, si vous voulez, qui est vraiment extrêmement bien délimitée, et il n'y a aucun locuteur pour lequel ça n'a pas été le cas. Ensuite, deuxième résultat, c'est que tous ces systèmes sont extrêmement divergents entre eux. Voilà. Alors, très bien. Mais c'est, comment dire, ça, c'est à mettre en rapport avec les éventuels problèmes de communication qui ont été relevés par Jérôme Larré, le manque de grammaire commune. Mais avant de faire cette étude, je me disais, bah oui, c'est parce que les concepts sont un peu flous. Non. Les gens ont une vision, en tout cas les 20 personnes que j'ai pu interroger, vingtaine de personnes, ont une conception très précise, en fait, de ce qu'est le jeu de rôle pour eux, de leurs constituants. Mais ce ne sont pas les mêmes, elles sont très divergentes. Et elles le sont d'autant plus pour les communautés de créateurs et de gens qui réfléchissent au jeu de rôle. C'est-à-dire que pour les membres de l'association dans laquelle je fais partie, vous avez des catégories qui portent des noms différents, mais qui peuvent avoir des critères de pertinence relativement semblables. J'ai des noms, comme par exemple, on me dit « Ouais, il y a les jeux de rôle tradis et puis les jeux de rôle non tradis. Ouais, il y a les jeux de rôle plutôt de simulation ou plutôt de narration. Il y a les jeux de rôle où le MJ, c'est un dieu. Et puis, il y a les jeux de rôle où c'est le livre qui est un dieu. Il y a les jeux de rôle classiques, les jeux de rôle modernes. Ça me fait plein de lexiques très variés. Et puis, c'est là où le critère de pertinence a vraiment son importance. J'essaie de voir, OK, qu'est-ce qui différencie? Est-ce que tu peux me donner des exemples de jeux, etc., etc. Et finalement, on a une frontière qui est assez mouvante, mais qui se retrouve pour cette communauté de joueurs d'une association de jeux de rôle. Mais c'est pas du tout le cas pour ceux qui réfléchissent au jeu de rôle que j'ai pu interroger. On a vraiment des systèmes très divers. Donc on a eu un petit peu l'expérience avec Thomas et sa présentation de ce matin, que j'ai eu la chance d'interroger, avec un système extrêmement cohérent. Hein. Ça fait sens, voilà, c'est ça, ça fait vraiment sens. Mais on a d'autres systèmes qui sont complètement différents, par ailleurs, avec des lexiques également différents. On a aussi des cas où les gens ont utilisé les mêmes mots. Vraiment, on a les mêmes mots qui reviennent, mais le critère de catégorisation n'est pas du tout le même. C'est-à-dire que vraiment, on a l'impression d'avoir les mêmes catégories, mais en fait, on ne recouvre pas du tout les mêmes réalités. Ça, c'est très classique pour les gens qui parlent du jeu de rôle en tant que théoricien. Alors, ces résultats, voilà, c'est à mettre en regard avec les différentes activités de ces différentes communautés. Bien évidemment que ces lexiques variés reflètent des engagements pratiques. C'est-à-dire qu'on ne parle pas du jeu de rôle hors sol, on en parle par rapport à une pratique et par rapport à des besoins de formalisation particuliers. Il y en a une qui est centrée autour du jeu, voilà, on joue. L'autre centrée autour du jeu, mais aussi avec une conception, une réflexivité. Alors je reprends quand même ce qu'a proposé Olivier tout à l'heure, c'est que même les joueurs qui appartiennent à la communauté, à l'association, ont aussi une vision réflexive de leur propre pratique. Ils sont capables de me fournir un système très cohérent à chaque fois. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Alors, en termes de discussion, je me suis dit, OK, là, on a une fenêtre de compréhension sur les difficultés de communication potentielles qu'il peut y avoir à travers les différentes communautés. Je pense qu'avec ce type d'approche, on a quelque chose de plus fin qu'un constat qui aurait un jargon incompréhensible et puis qu'on ne peut pas communiquer. C'est terminé. J'ai parlé au début de ma présentation des limites de l'institutionnalisation. Je pense que les limites qu'on se met au jargon et à l'institutionnalisation d'un champ qui pourrait être un champ de recherche ou de réflexion sur le jeu de rôle, sont en fait très liés aux limites de la communication, aux limites qu'on se met, nous, sur les mots qu'on va utiliser et les concepts qu'on va produire, et la formalisation d'une norme, on y revient. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut normaliser ou qu'il faut institutionnaliser, moi je regarde ce qui se passe, tout simplement. La prochaine étape pour mes recherches personnelles, c'est de regarder plus en détail les pratiques. Donc là, je suis au niveau épistémique, c'est-à-dire la façon dont les gens, et linguistique, la façon dont les gens pensent le jeu de rôle et parlent le jeu de rôle. Et ce que j'aimerais, c'est maintenant aller plus profondément dans les pratiques, avoir une méthode ethnographique, sociologique, pour, avec une méthodologie tout aussi rigoureuse, relever effectivement des critères pertinents au sein même des parties. Mais ça demandera de la méthodologie peut-être plus, je réfléchis beaucoup à ça, plus vaste. Donc avant qu'on passe aux questions, je voulais remercier déjà à tous les gens qui ont participé aux entretiens, qui ont été volontaires. Vous remerciez vous, et puis surtout n'hésitez pas à venir discuter avec moi, donc on a pas mal de temps pour les questions, venir critiquer mon approche, me poser des questions, aller en profondeur pour voir où est-ce que j'aurais pu éventuellement faire des erreurs ou des incorrections. Et puis pour clarifier, pour en discuter, pour avancer un petit peu plus. Voilà, merci beaucoup.
Bon, on passe aux questions, et il y a une main qui est tout de suite levée avant même que je parle, donc Isabelle, vas-y.
Bonjour et merci, c'était hyper intéressant, parce qu'effectivement, Je pense que ça, c'est une question super importante. Et en fait, je me demandais d'où tu parles, toi.
Ouais, bonne question.
Parce que tu as dit linguistique, ouais, tout ça, avec de l'ethnographie, alors, la sociologie, mais voilà, dans quel cadre, ouais, est-ce que tu fais ces recherches?
Alors, c'est une question que je voulais éventuellement aborder, mais c'est bien que tu la poses. Alors, ce qui se passe, c'est que moi, je travaille, je suis chercheur, plutôt en génétique et linguistique. On peut en discuter en détail si vous voulez. Et j'ai une pratique réflexive sur mon travail de chercheur, c'est-à-dire que je m'intéresse à l'épistémologie, donc la philosophie des sciences, si vous voulez, la façon dont on réfléchit, etc. Donc j'ai travaillé de mon côté, si vous voulez, pas dans un cadre institutionnel, sur cette question des entretiens, etc. Donc voilà d'où je parle, si ça répond un petit peu à la question.
D'autres questions? Alors.
Bonjour. Ma question, c'est est-ce que suite à tes entretiens, est-ce que tu vas faire une ontologie ou une présentation du vocabulaire, essayer de cerner les marges linguistiques du domaine du jeu de rôle et de la manière dont les catégories se produisent?
Alors, ce qu'il faut bien voir déjà, c'est que j'ai interrogé 20 personnes. Donc, je ne peux pas faire une cartographie de l'espace mental des rôlistes. Sachant que là, j'ai une perspective ethnographique, c'est-à-dire que je ne m'intéresse pas aux rôlistes, je m'intéresse à deux communautés particulières. Donc je peux éventuellement faire une cartographie de ces communautés-là, mais je ne pourrais pas aller plus loin, quoi. Alors est-ce qu'ensuite je veux le formaliser, le produire? Ben là, on est dans les limites de ce que permet l'institutionnalisation d'un média et d'un domaine de recherche qu'est le nôtre. Ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de travail, en fait. Peut-être qu'à terme, je vais produire ça, oui, effectivement. Mais ce n'est pas encore au programme.
Est-ce que tu sais si ce travail a été fait en anglais ou dans des communautés anglophones? Parce qu'énormément de mots viennent et des fois sont transformés quand on les, oui, utilise en français. Est-ce que tu sais s'il y a une base anglophone qu'on pourrait utiliser comme benchmark par rapport à ça, quoi?
Alors, je suis quasiment à peu près sûr que personne n'a fait la même chose que moi. Pas que je sois dans l'originalité, mais c'est une approche quand même assez originale, enfin, inhabituelle plutôt. Alors, est-ce que ça a été fait est-ce que c'est possible de le faire pour un lexique anglo-saxon, bien sûr, évidemment. Ce qu'il faudrait, je pense, être membre déjà d'une communauté, donc maîtriser finalement les représentations symboliques de ces communautés-là. Ça pourrait être fait, je pense pas que ça a été fait, et j'ai peu de vocabulaire finalement anglo-saxon dans mes questionnaires, en fait. Voilà, je pourrais pas vraiment quantifier, faudrait que je regarde. Enfin, si je pourrais quantifier, je l'ai pas fait. Mais comme ça, à première vue, je pense pas qu'il y en ait beaucoup, en fait. Contrairement à ce qu'on peut croire.
Juste rapidement, est-ce que tu envisages de publier en fait ta méthode d'entretien, ce qui permettrait en fait de la reproduire à plus grande échelle?
Alors ça, on me le demande souvent. Ce qui se passe, c'est que en ethnographie, il y a énormément de snobisme. C'est-à-dire que, enfin non, je suis méchant avec les ethnographes. C'est-à-dire qu'en fait, l'ethnographe, quand on lui demande, ok, donne-moi ta méthode pour travailler sur le terrain, souvent, enfin, ce qui peut arriver, c'est qu'ils te disent, ben, travaille sur le terrain. D'autres questions? En fait, l'idée, c'est que dans l'ethnographie, tu vas avoir un aller-retour incessant entre le travail de terrain et la théorie, donc la lecture d'ouvrages, qui vont te renseigner sur la façon dont les populations, les communautés humaines, en fait, construisent du sens. Et c'est un aller-retour incessant. Donc, essayer de formaliser comme ça, il faudrait qu'en fait, j'écrive un livre sur voilà, une méthodologie, ce que les gens font, en fait, avec beaucoup de retours d'expérience et d'exemplification. C'est pas non plus prévu au programme. Donc, pour transmettre ça, la meilleure chose, ce serait d'en discuter, de se mettre au travail, c'est-à-dire de le faire. C'est ce que je fais moi, en fait. Moi, je me forme en même temps que je fais ces questionnaires et de pratiquer, quoi. Je sais, un peu décevant, hein, comme réponse, mais je pense pas pouvoir proposer quelque chose qui soit comme ça.
Ouais. Donc, bonjour. Alors, j'ai une question, c'est plus sur les limites éventuelles de ton sujet de travail, et également tu as donc dit que tu venais sans idée préconçue, sans vocabulaire préconçu.
Non, ça c'est pas vrai. Mais
d'accord, ouais. Moi j'en vois un énorme. Alors je suis surtout, ouais, actif sur les communautés en ligne, et il y a une fois j'ai vu un témoignage qui m'a en fait assez marqué, et c'est quelqu'un pour qui en fait le jeu de rôle n'existait pas. Lui, il n'envisage pas le jeu de rôle, lui il joue à Donjons et Dragons, c'est tout. Voilà, c'est tout. Lui, il joue à Donjons et Dragons, il n'a pas envie de jouer au jeu de rôle, ça l'intéresse pas. Lui, ce qu'il veut, c'est des Donjons et Dragons. Et je me demande si déjà d'un, ça s'est perçu dans tes entretiens, et également si c'est quelque chose qui peut être perceptible par tes méthodes.
Alors, est-ce que tu peux... Je suis pas sûr de bien comprendre la question. Qu'est-ce qui peut être perceptible?
C'est-à-dire que, est-ce que ta méthode... Alors déjà, vu que tu t'intéresses à des communautés Je pense que ce genre de personne risque de passer à travers les mailles du filet, vu que quelqu'un qui joue uniquement à Donjons et Dragons a peut-être peu de chances de se retrouver dans une association de jeux de rôle. Et deuxièmement, est-ce que les questions que tu lui poses, est-ce qu'il peut y répondre si tu l'interroges sur ses pratiques, alors que lui, le jeu de rôle, il s'en tamponne?
Ouais, alors, première question quand même, je pense que c'est important d'y répondre. Est-ce que je viens sans préconception ou sans... Bien sûr que non, j'ai ma catégorisation du jeu de rôle. J'ai ma grille de lecture du jeu de rôle, je viens pas comme une feuille blanche. L'idée, c'est que ces méthodologies-là permettent de s'effacer au profit du locuteur. C'est-à-dire, c'est pour ça que je n'introduis pas de mots qui me sont propres, je n'introduis pas de concepts. Moi, je suis à l'écoute du locuteur et c'est lui qui a tout à m'enseigner, en fait. Moi, j'ai rien à dire. Donc c'est dans le travail en fait que je ne fais pas fi de moi ce que je pense, mais en tout cas ce qui m'intéresse au moment de mes entretiens, c'est pas juste ce que je pense, c'est ce que pense l'autre. Et donc pour ta question de pour quelqu'un qui pour lequel le mot même de jeu de rôle n'existerait pas, moi ce que je lui demanderais c'est ok, quels sont les différents types d'expériences que tu as avec Donjons et Dragons. Je commencerai comme ça en fait.
D'accord.
Et après, il parle, il produit des mots, et puis je réutilise ces mots-là. Et il y a toujours besoin d'une initialisation à un moment donné. Mais ouais. D'accord.
Mais donc, au début de ton questionnaire, tu commences par dire. Qu'est-ce que
pour toi, non. Non, parce que si je fais ça, j'en ai pour. Donc, je préfère commencer. Quelles sont les différentes catégories?
Bonjour.
Bonjour.
Merci pour ta communication, c'était passionnant. Ah, et ma question, c'était, en fait, c'est dans les résultats que tu as présentés rapidement, ça donne l'impression qu'on a juste un agrégat d'individus isolés qui ont chacun dans leur coin pensé le jeu de rôle. Or, a priori, j'aurais plutôt eu tendance à penser qu'il y a quand même des médias rôlistiques, des magazines, des sites web qui contribuent à diffuser un vocabulaire commun. Quitte à ce que ce soit une illusion, hein, que tout le monde utilise par exemple les mots jeu de rôle et que justement chacun met autre chose derrière. Mais je pensais qu'il y aurait au moins un lexique commun, même superficiel. Et je ne sais pas si tu es déjà en mesure de répondre ou si tu aurais envie d'approfondir ça, mais est-ce qu'il y a quand même, à ton avis, des choses qui permettent de forger un vocabulaire commun ou bien des influences ou... Parce que tu parles de communauté, est-ce que ces communautés sont reliées par quelque chose vraiment ou bien non?
Alors, l'idée de travailler avec une communauté, c'est en fait de travailler avec une communauté de gens qui se parlent, à plus ou moins grande échelle. C'est pour ça que je travaille chez des groupes, en fait. C'est l'idée, voilà, c'est des gens qui se parlent ensemble. Donc, a priori, il y a quelque chose de linguistique, socialement, à travailler. Ce que je crois, c'est que chaque locuteur pour lesquels on a l'impression qu'ils ont tous leur façon de penser le jeu de rôle, ont ce qu'on appelle en linguistique des idiosyncrasies. C'est-à-dire qu'ils ont tous leur langue, leur manière de parler, mais qu'en fait, il y a une certaine intercompréhension des idiosyncrasies. C'est-à-dire que chacun est capable de comprendre la façon dont les autres parlent à un moment donné, de comprendre les critères de pertinence, mais tout le monde a son monde mental. Quoi. Voilà. Je pense que c'est ça qui se passe en pratique. Je crois avoir répondu.
Donc voilà, maintenant je te prends au mot, Valentin, puisque tu n'écriras pas de livre, quand est-ce que tu organises un stage de formation?
Un stage de formation, à la pause. On commence direct. Je peux te faire passer un entretien, par exemple, ça m'intéresse beaucoup. Alors, il y a un petit problème de réflexivité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je vous expose la méthode, il peut y avoir on peut imaginer des biais. Donc là, je reprends la question de Thomas. Typiquement, là, tu me demandes, Je réponds pas exactement à la question. Mais là, tu me demandes, est-ce qu'on peut faire un stage de formation? Je te dis oui, on peut éventuellement faire un entretien avec toi. Mais là, tout de suite, j'ai une alarme qui s'allume. Je me dis oui, mais en fait, la façon dont tu vas construire le questionnaire, vu que tu connais la finalité, il y a de bonnes chances que ce soit biaisé d'une façon. Alors, d'où je le sors moi? De mes lectures, du sens commun, de l'expérience. C'est un peu l'idée. Mais en tout cas, pour le stage, pas de problème.
Alors, d'autres questions?
Tu as utilisé communauté,
oui,
qui est quand même un terme assez chargé pour désigner donc les deux collectifs, si je prends un terme un peu plus neutre. Dans le cas d'une association, je vois bien, après une vingtaine de personnes qui réfléchissent au jeu de rôle et qui forment une communauté, alors je voudrais savoir si elles ont le même ciment communautaire que les autres qui sont dans la même association. Et quel est le périmètre que ça désigne? Est-ce qu'en désignant ce périmètre, tu peux généraliser, alors c'est toujours très difficile de généraliser des idiosyncrasies par définition, mais en gros, est-ce que la divergence que tu décris reflète une absence de ciment communautaire, ou est-ce que tu as mis le doigt sur une communauté très innovante, très de recherche-développement, on va dire?
Alors, le mot collectivité, communauté, pardon, je ne le voulais pas connoter, dans le sens où on va parler de communauté de langage en linguistique, donc c'est simplement des gens qui se parlent entre eux à intervalles plus ou moins fréquents. Donc ce n'est pas une question de construction communautaire. Après, on pourrait mettre en regard, dans un travail interdisciplinaire, les questions de construction communautaire. Je ne l'ai pas fait. La vingtaine d'entretiens, c'est 20 personnes avec lesquelles j'ai construit mes entretiens. L'association de jeux porte une centaine de membres, je crois. La communauté, par contre, est beaucoup plus restreinte. Ah ouais, peut-être une trentaine de personnes. Est-ce que c'est le reflet d'une communauté, du coup, assez innovante? Je pense qu'il y a beaucoup de ça, c'est-à-dire de gens qui vont réfléchir à dépasser les limites des cadres déjà institués pour être instituant, c'est-à-dire sortir des cadres et donc construire de nouveaux systèmes. Je pense qu'il y a beaucoup de ça, oui, effectivement. Notamment pour cette communauté-là, tout à fait.
Moi, je me demandais, t'as dit que le vocabulaire qu'on avait changeait la façon de penser. Est-ce que les rôlistes pensent différemment que les autres?
Alors, donc là, il faut que je fasse un peu de théorie. Ce genre de travail est issu beaucoup de discipline qu'on appelle l'ethnolinguistique, la discipline ethnolinguistique, dans laquelle en fait il y a des fondateurs qui sont Sapir, Worth, je ne sais pas si vous connaissez, qui sont en fait des gens qui ont réfléchi au lien entre d'un côté le langage et de l'autre côté la pensée. Donc et c'est tout le courant du renouvellement philosophique, renouvellement linguistique dans la pensée philosophique qui a eu lieu deuxième partie du XXe siècle. Et donc on pourrait résumer en disant que on a une expérience du monde particulière, pratique, pragmatique, donc c'est une linguistique qui est devenue pragmatique, dans laquelle on va échanger, pas pour parler, pas juste pour parler, on échange dans un objectif précis, dans un objectif pragmatique. Cet objectif pragmatique, bah voilà, il est directement relié à notre expérience du monde réel. Et ça construit des catégories de langage. Et donc tu as un double mouvement, à la fois... Ce dont tu parles, c'est le reflet de ce que tu vis, en fait, quelque part, en pratique. Et aussi, quand tu vas t'intégrer dans une nouvelle communauté, la façon dont on va te dire le monde va produire dans ta tête, je résume à gros traits, hein, va produire dans ta tête des catégories. Et tu vas, ou pas d'ailleurs, si tu es un punk, ça va se passer comme ça, mais tu peux construire des catégories de pensée qui sont homogènes avec celles qui sont déjà présentes dans une communauté. Bon, ça a été fait pour les langues naturelles classiques. Typiquement, quand on regarde le vocabulaire lié à la distinction entre les couleurs, par exemple, la façon dont on dit les couleurs va avoir une influence dans la façon dont on perçoit les couleurs dans une société particulière. Donc il y a comme ça une articulation. Donc maintenant, pour ta question, est-ce que les rôlistes pensent le jeu de rôle tous différemment ou tous pareil? C'est ce que j'essaye d'approcher indirectement avec mes questionnaires. Moi, ce que je crois, c'est que les rôlistes que j'ai interrogés, en tout cas, pense le jeu de rôle de manière très différente, oui. Pense l'objet, parce qu'en fait, ils ont des expériences et des objectifs pragmatiques très différents. C'est ça qui est pour moi à l'origine de ça. Voilà.
Merci. Pas d'autres questions? Bon, alors ça sera la toute dernière.
J'ai une question assez courte, bonjour. C'est est-ce que finalement au terme de l'étude, est-ce qu'il en est ressorti qu'est-ce que c'est un bon jeu de rôle et un mauvais jeu de rôle, et est-ce que ça a été abordé par les différentes personnes qui ont répondu au questionnaire?
En fait, ça revient sous le ton de la blague, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent ah bah oui, c'est très simple, c'est le bon et le mauvais jeu de rôle. Et je vais ok, est-ce que tu as des exemples de bons et de mauvais jeux de rôle? Parce que c'est comme ça que je peux atteindre les critères de pertinence. Les gens disent ouais non, on balaye, finalement c'était pas si pertinent que ça. Donc c'est cité, il y a le lexique, on peut différencier, on peut parler de bon et de mauvais jeu de rôle, mais on n'a pas de critère de pertinence dans le lexique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on est capable de différencier de manière pertinente un bon d'un mauvais jeu de rôle? Pas chez les locuteurs avec lesquels j'ai discuté, en tout cas. Voilà.
Eh bien merci pour cette intervention. Merci.